Terre à Terre, le magazine de l'environnement, ce matin, les alchimistes sont de retour. À 4 mois du grand sommet annoncé de Rio plus 20, retour sur 20 ans de résistance et cartographie des chemins empruntés aujourd'hui par les nouveaux alchimistes, ceux qui ont juré de transmuer en or nos productions, nos déchets, nos vies, notre planète. Rencontre tout d'abord avec le directeur de l'Institut canadien Polaris, Tony Clark. Tony Clark, j'aimerais peut-être commencer par retracer une partie de votre carrière de militant. Elle remonte à un certain nombre d'années. Vous avez travaillé dans toutes sortes d'organisations différentes et vous allez nous en parler parce que c'est intéressant. Je voudrais préciser tout de suite que vous avez eu le prix Nobel Alternatif en 2005 avec Maud Barlow. À l'époque, c'était vous travailliez sur l'eau et sur les compagnies sur les multinationales de l'eau. Vous aviez écrit un livre qui a été publié en français sous le titre de L'or bleu chez Fayard. Mais si on remonte plus avant, votre engagement est vraiment extrêmement ancien et n'a jamais failli depuis.
Cet engagement remonte au mouvement des droits civils aux États-Unis en partie. J'ai beaucoup participé à ce mouvement à l'époque. J'étais très attiré par ce qui se passait aux États-Unis. Alors je me suis rendu à Chicago pour faire mes études universitaires et j'ai travaillé avec des associations de terrain tout en poursuivant mes études à l'université de Chicago. Alors cela m'a donné l'occasion d'apprendre beaucoup sur les problèmes de classe, les problèmes raciaux et avec tout ce contexte où j'étais donc militant, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions. Je n'étais pas encore vraiment militant à l'époque, mais ça m'a vraiment construit cette expérience.
C'était quelles années ?
Je dirais que c'était vers la fin des années 60, 67, 68 à peu près. D'ailleurs, j'ai été arrêté la première fois à l'occasion de la Convention des démocrates à Chicago à l'époque. Et puis après cela, je suis retourné au Canada parce que je ne connaissais pas mon propre pays. Je l'avais quitté 6 ans plus tôt pour faire mes études universitaires et puis pour faire tout ce travail avec les associations de terrain. Et lorsque je suis retourné au Canada, j'ai commencé à travailler avec l'Église, les Églises au niveau national, en partie parce que c'est avec les Églises à l'époque qu'on pouvait vraiment mener un travail sur le terrain, mener une action sociale qui fasse bouger les choses. Et ce n'était pas les syndicats qui étaient le plus efficaces à l'époque. Donc j'ai commencé à travailler avec l'Église, d'autant que le mouvement de la théologie de la libération s'était développé en Amérique latine, donc toute une nouvelle conscience et prise de conscience qui se faisait autour de ce mouvement. Et ça m'a donné la possibilité d'apprendre encore beaucoup cette nouvelle tranche de vie et de comprendre ce qui se passait. À l'époque, il faut rappeler que l'Église restait une institution aussi bien socialement que politiquement importante. Et l'Église avait voix au chapitre. Alors j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs dossiers. Il y a eu une première grande problématique sur laquelle on a travaillé à la fin des années 70. Il s'agissait à l'époque de construire un gros couloir de l'énergie qui irait de la mer de Beaufort jusqu'aux États-Unis, jusqu'au sud du Canada évidemment. L'idée étant de créer un gazoduc pour acheminer du gaz depuis le nord du Canada vers le sud du pays, vers les États-Unis. Il s'agissait de traverser des terres qui étaient occupées par des aborigènes, la nation Dani en l'occurrence, qui s'est s'élevée contre ce projet. Et moi, j'ai été aux côtés de ces gens. Il s'agissait de gagner un soutien dans le sud du Canada et aux États-Unis pour venir appuyer cette lutte qui avait lieu dans le nord du pays. Alors avec l'Église, donc, nous avons mis en place tout un plan d'action pour mener cette action qui a fini par devenir une énorme campagne. Et cette campagne, ça a été une victoire pour nous. Il se trouve que nous avons gagné et nous avons réussi à mettre un coup d'arrêt à ce projet de gazoduc.
C'est donc le moment où vous avez commencé à vous intéresser aussi aux problèmes environnementaux. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le moment où vous avez découvert que l'Église était sans doute le lieu où on pouvait se battre, mais seulement jusqu'à un certain point.
It was an awareness for me because, you know, I had,
j'en étais conscient, de toute façon. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais pris conscience de ces problèmes de classe et de race, mais je n'avais pas encore vraiment été confronté de près aux questions de l'environnement, mais le gazoduc, évidemment, de McKenzie, on s'y est opposé en raison des risques pour l'écologie. Donc j'avais développé une conscience autour de ça. Mais après, il y a eu un autre élément marquant, ça a été une bataille qu'on a lancée, qui est encore en cours, pour mettre un terme ou empêcher l'exploitation des sables bitumineux au Canada. Je me souviens que j'étais allée une fois à Edmonton et quelqu'un m'a dit, mais tu as vu ce qui se passe dans le nord de l'Alberta? On devrait aller voir ce qui se passe. Et nous nous sommes rendus sur place et c'est la première fois que j'ai été confrontée à la question des sables bitumineux, à leur exploitation, mais on en était aux prémices à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est absolument méconnaissable ce qui s'est passé entre-temps. Enfin, c'est une autre histoire. Et quant aux limites de l'Église, ou des églises. L'Église, à l'époque, travaillait bien autour des questions de droits de l'homme, des questions sociales. Et il était possible de travailler autour de ces questions avec l'Église, mais pour tout ce qui concerne l'environnement, je dirais qu'à l'époque, les églises n'étaient pas présentes du tout sur ces dossiers, à quelques rares exceptions près.
Ensuite, il y a eu le très long combat contre les accords, l'ALENA, ce qu'on appelle en français l'ALENA, c'est-à-dire les accords commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.
The free trade battle became,
alors, la bataille autour de cet accord de libre-échange a été un énorme problème. Je me suis impliqué autour de ce dossier, je n'étais pas le seul, tant s'en faut. C'était le premier accord de libre-échange complet proposé dans le monde. Les négociations ont commencé en 1985, elles se sont poursuivies jusqu'à 87, octobre 87, je crois. Et à ce moment-là, l'accord de principe a été atteint entre le Canada et les États-Unis. Il prévoyait la mise en place du premier accord de libre-échange au monde. Et à ce stade, nous avions mis en place une coalition qui s'est avérée la plus importante du monde et dans l'histoire du pays, une coalition qui se proposait de lutter contre l'adoption de cet accord de libre-échange. Toutes les organisations de la société civile étaient là, les syndicats évidemment, les organisations sociales de protection de l'environnement, aussi des groupes qui représentaient les femmes et autres différentes communautés ou collectivités. Tout le monde a travaillé ensemble pour essayer d'empêcher cet accord de libre-échange de voir le jour. Et malheureusement, les partis qui étaient opposés, qui étaient en faveur, pardon, de cet accord étaient nombreux. Et il y avait notamment un parti qui poussait cet accord et qui se trouve avoir gagné les élections, de sorte que nous n'avons pas pu gagner la partie. Mais il y a quand même eu une véritable galvanisation des collectivités autour de ce sujet. Après, le gouvernement Mulroney n'a eu de cesse d'étendre cet accord au Mexique. Et cela a donné ce fameux, ou plutôt assez infâme, accord de l'ALENA. Nous avons continué avec la coalition de la société civile que nous avions mis en place à lutter. Et cette fois-ci, nous avons continué à travailler, mais en partenariat avec des groupes qui se trouvaient au Mexique et aux États-Unis.
Pendant que les organisations de la société civile s'internationalisaient et apprenaient à avoir des liens les unes avec les autres, les grandes entreprises étaient également dans ce même mouvement d'internationalisation à un rythme et avec une envergure que sans doute on a été long à comprendre et à repérer.
Effectivement, et ce que l'on a fait, par exemple, c'est que nous avons commencé à nous intéresser beaucoup plus aux 10 plus grandes entreprises qui participaient à la privatisation des services de l'eau. Nous avons préparé un rapport, une analyse sur cette situation, et également un rapport, la première du genre d'ailleurs, un rapport donc sur les fabricants de bouteilles d'eau. Donc ça a été un tournant important. Après, il y a eu la prise de conscience autour du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre et les implications sur le climat. Et encore une fois, les entreprises ont réussi à avoir une longueur d'avance par rapport à nous, de sorte que lorsque le sommet de la Terre s'est tenu à Rio de Janeiro, en 92, il y avait toute une série de publications scientifiques qui ont été présentées, qui annonçaient le réchauffement de la planète. Et bien évidemment, les organisations des entreprises avaient pris une longueur d'avance. Et eux, l'enjeu pour eux, c'était que, quelles que soient les décisions qui soient prises par rapport au réchauffement climatique, il fallait qu'ils continuent à gagner de l'argent, y compris sur ce phénomène. Donc, ils ont essayé de participer de l'intérieur au processus des Nations Unies pour impacter la direction dans laquelle on se dirigerait après ce sommet de la Terre de 92. Il y a donc eu ce processus qui a vu jour à ce moment-là. Ils ont mis en place des associations, des entreprises, ils ont créé des partenariats entre entreprises, avec les Nations Unies. Ils ont beaucoup insisté également sur la politique intérieure que les entreprises ont essayé d'influencer. Et suite à tout cela et à toutes ces choses qu'ont faites les entreprises, bien l'accord de Kyoto qui est entré en vigueur en 97 a en fait été complètement capté et détourné dans son usage par les entreprises. Comment ont-elles fait ? Eh bien, elles ont utilisé des mécanismes de marché, les entreprises, qui fait qu'elles peuvent continuer à faire des bénéfices sur ce verdissement entre guillemets de l'économie, avec tout ce qui concernait la protection du climat, de l'environnement. Donc, on voit que ces organisations se sont constituées, organisations d'entreprises, et que grâce à ces organisations, elles ont pris une ampleur et une importance énormes. Et maintenant, dans un deuxième temps, nous sommes à la phase verdissement de l'économie, et on voit que d'emblée, l'agenda, les décisions, les orientations ont déjà été définies, en fait, de facto, par les organisations de ces grandes entreprises. Et je vois que lorsqu'il va y avoir la réunion de Rio plus 20 qui doit se tenir en juin 2012, on voit qu'en fait l'ordre du jour de cette réunion de 2012 a déjà été défini, infiltré par ces organisations des entreprises. Donc ce qui est quand même très important dans tout cela, c'est de voir quelle a été l'influence en fait au plan culturelle, la suite de tous ces événements. Toute notre compréhension de la politique, de l'économie, on subit un véritable bouleversement qui, en fait, est lié à la participation des grandes entreprises. Ce sont elles qui définissent l'ordre du jour, l'agenda au plan international. Et dans le même temps, tout, littéralement, tout est à vendre. Nous avons marchandisé absolument tout ou presque aujourd'hui. Nous sommes en train de marchandiser actuellement les services de l'eau. D'ici peu, c'est l'air, c'est l'espace qui y passeront. Et cette marchandisation à tout va se fait à une cadence effrénée. Tout est à vendre. Et le problème avec tout ça, c'est que ceux qui peuvent payer vont avoir accès à ce qui va être marchandisé, que ce soit l'eau, l'air, etc. Mais ceux qui n'ont pas l'argent pour se faire, eh bien, ils vont devoir s'en passer. Et on crée ainsi une situation de vie ou de mort, à la fois pour la planète et pour les gens qui vivent sur cette planète.
Mais comment est-ce que tout ça peut évoluer, Tony Clark ? Est-ce que ça n'aboutit pas à une impasse, ce système ? Ou bien est-ce que véritablement, aujourd'hui, la lutte est une lutte à mort et qui va nécessiter énormément d'engagement de la part d'énormément de gens ?
Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on arrive vraiment, on est au bord du précipice. On est vraiment en train de basculer entre la possibilité de vie ou de mort de la planète. Et en fait, ce qui, si vous voulez, est à l'ordre du jour actuellement, c'est en fait trois crises qui se produisent à la fois. Il y a tout d'abord l'économie, la crise économique. Structurellement, on la sent, on la perçoit, on la vit ici en Europe, peut-être mieux ici qu'ailleurs d'ailleurs. Et le modèle économique, le système économique qui est en place n'est pas pérenne. Il ne peut pas continuer à se développer et à croître encore. et surtout à faire une division entre les riches et les pauvres et faire que ce fossé se développe de plus en plus, tout ça en restant pérenne. Ça n'est pas possible. Le modèle de la consommation, de la production doit être complètement revu. Ensuite, il y a une crise économique et une écologique majeure. On l'a vu avec la crise du climat, on le voit, on a une crise de l'eau maintenant, des pénuries d'eau qui nous attendent. Pour les 10-15 années à venir, ces pénuries risquent d'être catastrophiques. On le voit également dans l'épuisement des sols, la désertification de nos sols, et ce, dans le monde entier. Et ce que l'on voit, c'est que tout ceci est tout sauf pérenne. Ce n'est pas un développement pérenne de la planète. Ensuite, il y a la crise énergétique. Et ça, c'est le problème numéro 3. Nous sommes littéralement drogués au pétrole et aux hydrocarbures. Notre société est fondée sur le pétrole. Vous pouvez penser à n'importe quel produit, à un moment ou un autre, le pétrole entre dans sa composition, il en dépend. Dans le même temps, les sources conventionnelles de pétrole sont en train de s'épuiser à vitesse grand V, et entre-temps, nous n'avons pas fait de découvertes importantes. Alors après, il y a le pétrole non conventionnel qui est en train d'être développé, ce sont les fameux sables bitumineux dont je parlais tout à l'heure, d'autres types d'hydrocarbures également. Mais le problème avec ces sources de pétrole, avec ces formes de pétrole, c'est que pour les produire, il faut que l'on détruise l'environnement pour y avoir accès. Donc, on est aujourd'hui à la croisée des chemins, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on ne peut plus trouver d'approvisionnement durable en pétrole pour l'avenir, en tout cas jusqu'à la fin du siècle, sauf à détruire une partie de l'environnement pour avoir accès aux sources de pétrole qui restent disponibles. Et ça, ça a bien évidemment savoir un impact considérable dans l'avenir. Donc là, il y a un problème énorme. C'est-à-dire que nous avons un type de crise qui va avoir une influence sur un autre type de crise, et la crise économique a une incidence sur la crise de l'environnement et réciproquement. Quant à la crise de l'énergie, elle a une influence sur les deux autres types de crise, et on ne peut pas résoudre les autres sans avoir résolu la première ou réciproquement. Et c'est ce qui me préoccupe. Nous sommes vraiment à un moment historique et nous vivons deux phases, je crois, à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nous achevons l'ère technozoïque, comme le dirait Thomas Berry. Nous arrivons à la fin de cet âge technozoïque et il faut maintenant faire la transition à cet âge ou à cette ère écozoïque. Et pour assurer ce passage, il va falloir résoudre cette crise des triples E, ainsi que je l'appelle, E comme économie, comme environnement et comme énergie.
Au Canada toujours, l'association ETC, etc., fondée par Pat Mooney, fait preuve depuis maintenant plus de 30 ans d'un remarquable esprit de prospective. Les OGM, ils les ont débusqués avant tout le monde, puis la biopiraterie, puis les nanotechnologies. Jim Thomas, au sein du groupe ETC, etc. Group, comme vous dites ici à Montréal, vous êtes un de ceux qui ont forgé ce terme de Biomasters, les nouveaux Biomasters. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe ?
Une chose que l'on constate à l'heure actuelle dans le secteur de l'agriculture, c'est que l'intérêt pour l'agriculture devient différent. C'est-à-dire que ce n'est plus le lieu où on produit l'alimentation uniquement, mais c'est aussi le lieu où on va produire les matières premières qui vont servir à produire, par exemple, les combustibles, les textiles et autre chose, des produits qui précédemment étaient faits à partir du pétrole. Donc, le pétrole n'est plus la matière première par excellence pour faire des matières plastiques, par exemple, c'est désormais le vivant qui va servir à cela.
C'est considéré comme très écologique de faire ça.
Well, of course, it sounds very ecological.
Évidemment, sur le papier, ça semble tout à fait écologique. On se dit qu'abandonner le pétrole, qui est vraiment sale et qui pose des problèmes, pour passer au végétal, ça semble une très bonne idée. Mais de fait, c'est quelque chose de très dangereux. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour obtenir les quantités importantes de matière végétale dont on a besoin pour produire, par exemple, des plastiques, des produits chimiques, eh bien, il va falloir également prélever cette matière végétale dans l'environnement, il va falloir la retirer des sols, il va falloir également la soustraire aux humains eux-mêmes.
Mais de quelle matière végétale est-ce que vous parlez exactement ?
Well, so if to take it in a global view, the planet produces
globalement, je dirais que la planète produit 230 milliards de tonnes de matière végétale par année. C'est ce qu'on appelle la biomasse. On en utilise une bonne partie pour l'alimentation, pour le bois de chauffage, le bois de construction, pour les logements, pour le textile, etc., pour nourrir les animaux. Et cette biomasse, dans une large mesure, se trouve dans les océans sous la forme d'algues. Je dirais que près de 50% de cette biomasse est sous la forme d'algues dans les mers. Il y a également les forêts, les bois, les branches. Et pour une bonne part aussi, cette biomasse, elle correspond à des végétaux, à des herbes, aux résidus alimentaires aussi que nous avons. Donc voilà ce qui constitue globalement cette biomasse. Or, la première vague de produits qui ont été faits à partir de la biomasse, qu'on a appelé l'économie de la biomasse, la bioéconomie, différentes appellations. Initialement donc, on a utilisé le sucre, de canne ou le sucre de maïs qu'on a transformé en combustible, l'éthanol en l'occurrence. Entre-temps, l'industrie s'est rendue compte qu'en fait, ces biocarburants étaient en compétition, en concurrence directe avec l'alimentation, de sorte qu'on va passer maintenant à un autre type de sucre qui existe en abondance, cette fois-ci, dans les arbres, dans les végétaux, il s'agit de la cellulose. On voit donc une industrie qui va essayer, par exemple, de transformer désormais les copeaux de bois en plastique, par exemple, ou qui va transformer des algues également en matière plastique, par exemple.
Vous avez dit que c'est dangereux. En même temps, quand on vous écoute, on se dit « mais ça, on a toujours fait, plus ou moins ». Donc le danger, est-ce qu'il vient de l'accroissement de l'utilisation de cette biomasse ? Est-ce qu'il vient de l'utilisation qui en est faite ? Est-ce qu'il vient des acteurs qui sont ceux qui vont utiliser cette biomasse ?
Ce passage à la biomasse, pourquoi est-il tellement dangereux ? C'est parce qu'il se fait à grande échelle. Et je dirais qu'il ne s'agit pas simplement de passer du pétrole à la biomasse pour produire le plastique, les carburants, etc. Mais dans le même temps, on l'utilise aussi la biomasse de plus en plus pour produire de l'électricité. Et la fameuse prétendue énergie renouvelable qui se développe beaucoup en Amérique du Nord, en Europe, eh bien, elle est développée à partir de la biomasse, elle aussi, dans une large mesure. D'où une pression énorme sur les terres, sur les forêts, particulièrement, mais également sur la agriculture, qui doit fournir la matière première pour toutes ces productions. Je le disais, on utilise d'ores et déjà une grande partie de la biomasse produite par la planète, à peu près un quart de cette biomasse. La question est de savoir jusqu'où on peut aller sans affecter le bon fonctionnement de l'écosystème. Parce que la différence avec le charbon ou le pétrole qui sont inertes dans le sol, eh bien, c'est que quand on prend la biomasse, on touche en fait à la biodiversité. Et c'est cette biodiversité qui nettoie l'air, qui recycle l'azote, qui donne un habitat aux animaux, qui nous donne notre alimentation. Et c'est ça que l'on va prendre pour produire cette fois-ci de l'électricité ou des combustibles. Et quand effectivement on se pose la question de savoir jusqu'où on peut aller, on prend peur. Depuis les débuts des années 80, on utilise plus de biomasse que ne peut en fournir la planète. Je dirais qu'on utilise une fois et demie la production de biomasse par la planète. Ce qui veut dire qu'on est surendetté littéralement. C'est-à-dire qu'on prend tellement de biomasse dans notre stock qu'on est en train de menacer notre écosystème, celui sur lequel repose notre existence. Et là, on n'est pas dans la finance. On ne peut pas simplement faire une opération sauvetage ou renflouement. Quand on est surendetté, on est allé trop loin avec la nature. Alors, dans un tel contexte, se dire qu'on va prendre encore plus de biomasse pour produire l'électricité ou les biocarburants, c'est comme à faire un prélèvement sanguin sur un patient qui est déjà en train de saigner. Ça n'a tout simplement aucun sens.
Alors bien sûr, la réponse qu'on peut vous faire, c'est que justement par le biais des mécanismes du marché, il s'agit aujourd'hui d'essayer de réguler cette ponction sur la biomasse et le fait de convertir en valeur monétaire l'ensemble de la biomasse est censé pouvoir permettre de ne pas abuser. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jim Thomas ?
Ce que j'en pense, c'est que s'imaginer qu'on peut utiliser les marchés pour réguler notre exploitation de la planète, c'est une idée qui se fonde sur absolument rien. Regardez l'histoire. Voyez comment on a utilisé les marchés pour essayer d'assurer la protection de la santé ou de l'éducation. On voit que le recours au marché a le plus souvent détruit le tissu social. Et ce que l'on voit ici, c'est que les marchés, effectivement, vont commencer à s'impliquer dans la gestion de la biomasse, de tous les services qu'on appelle les écosystèmes. Eh bien, les marchés, donc, vont s'en mêler. Et à ce moment-là, je pense que la biodiversité, plus que la biomasse, la biodiversité, donc, va se trouver détruite encore plus qu'avant. Et comme on l'a déjà vu avec l'émergence de l'économie de la biomasse, on a déjà vu une pression considérable sur les terres. Ensuite, bien sûr, sachons que pour l'agriculture, il faut avoir de la lumière, de l'eau. Et où sur Terre a-t-on tout cela ? Eh bien, dans les tropiques. Quelque 83% de la biomasse mondiale se trouve dans la zone tropicale, au Brésil, en Afrique subsaharienne. Et donc, on voit que les entreprises d'ores et déjà se jettent sur cette richesse. Ils essayent de préempter les terres. Une fois qu'ils les ont, ils ont donc la biomasse à leur disposition et qu'ensuite ils vont essayer d'utiliser ces écoservices en faisant une financiarisation de la gestion de cette biomasse. C'est une tendance que l'on a déjà vue et il y a d'autres organisations qui l'ont dit très clairement. Ces préemptions des terres vont faire que les agriculteurs, les populations pastorales doivent fuir leurs propres terres alors que ce sont eux précisément qui nourrissent la planète.
Un autre aspect intéressant, Jim Thomas, c'est de savoir qui sont les acteurs de ce nouveau jeu. C'est aussi quelque chose sur quoi Etc. Group a enquêté.
C'est assez intéressant de voir qui sont les entreprises qui, évidemment, reluquent cette biomasse et veulent la marchandiser. Or, il se trouve que ce sont les entreprises qui ont la main actuellement sur toute l'économie du pétrole. Vous prenez toutes celles qui sont à la tête de l'exploitation du pétrole. Elles sont quasiment toutes intéressées par l'exploitation de la biomasse, biocarburant, etc. Les grandes entreprises chimiques, DuPont, pour ne pas la nommer, ou Dow Chemical. Ils sont intéressés, effectivement, par la gestion de la biomasse et sa transformation en produits chimiques. Ensuite, vous prenez les gros producteurs d'énergie, de services d'électricité. Ils sont en train de brûler de la biomasse actuellement pour produire de l'énergie. Ces masters, c'est qui étaient donc ceux qui ont contrôlé l'économie du pétrole, vont commencer à contrôler l'économie basée sur la biomasse. La seule différence, c'est que la matière première n'est plus la même. Pour le reste, c'est la même chose.
On pourrait avoir l'impression qu'ils sont nombreux, parce que vous avez cité toutes sortes de domaines très différents les uns des autres, et en fait, ils ne sont vraiment pas si nombreux que ça.
Yes, that's true.
C'est tout à fait exact. De plus en plus, on voit qu'un petit nombre d'entreprises dominent chacun de ces secteurs et parfois ce sont les mêmes entreprises. Donc, on voit qu'il y a des entreprises qui sont intéressées par un passage du pétrole à la biomasse parce que ça leur permet de renforcer encore leur pouvoir, de le conforter. La biomasse, on va l'utiliser pour faire des produits chimiques, de l'électricité, du plastique, comme le pétrole est polyvalent. également. Ça veut dire pour ces entreprises qu'elles vont pouvoir avoir la main mise sur de très nombreux secteurs et constituer un oligopole. DuPont, par exemple, qui s'intéresse et qui a déjà l'œil sur les algues et leur transformation en produits chimiques et qui veulent maintenant transformer la biomasse en produits chimiques, qui ne perdent pas de vue non plus l'agriculture, la sylviculture. Évidemment, c'est un pouvoir, une puissance considérable qu'ils vont pouvoir développer en ayant ce type de stratégie.
D'autres compagnies, peut-être ?
So the oil companies, you know, BP, Exxon,
ben, évidemment,
Shell,
les producteurs
Total,
de pétrole, BP, Exxon, Shell, Total, sont extrêmement intéressés également par une présence de tout premier ordre sur ce marché de la biomasse. Et puis les négociants en grains et puis négociants en bois qui vont être les fournisseurs de matières premières, ADM, Cargill, Warehouse, sont de gros négociants qui voudraient bien prendre la place des producteurs de pétrole en exploitant la biomasse en énorme quantité, en la transformant ensuite en biens de consommation.
Il y a aussi, Jim Thomas, tout le secteur de la pharmacie, qui est extrêmement important, non seulement parce qu'il participe déjà à cette course à la biomasse, mais parce que peut-être à travers ce secteur-là, quelque chose d'autre est encore en train d'arriver et de s'ajouter à tout ce que vous nous avez déjà décrit, et c'est l'arrivée de la biologie synthétique.
Well, I think synthetic biology
la biologie synthétique, de manière générale, va être extrêmement importante pour cette économie basée sur la biomasse. Alors, qu'est-ce que c'est, la biologie synthétique? C'est une version extrême de l'ingénierie synthétique. Cela veut dire que l'on peut reprogrammer des organismes, des microbes ou des végétaux pour produire des matériaux, des carburants, des plastiques, des produits chimiques, voire des médicaments. La biologie synthétique, qui est cette plateforme un peu extrême de l'ingénierie biologique, est perçue comme l'outil technique qui va permettre de transformer les sucres de la biomasse en un certain nombre de produits, ces produits qu'on utilise à l'heure actuelle, et ceci par un processus de fermentation.
Vous dites que c'est une forme extrême de manipulation génétique. Ça n'est pas exactement ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés. C'est encore autre chose.
Effectivement, la biologie synthétique va encore un petit peu plus loin. La grande différence entre l'ingénierie génétique et la biologie synthétique, c'est qu'avec cette dernière, on peut créer les parties génétiques d'un organisme à partir de rien. L'ADN, par exemple, qui est le code du vivant, eh bien, précédemment, avec l'ingénierie génétique, on allait sectionner, prendre un petit segment d'ADN sur une bactérie, par exemple, et on allait ensuite l'injecter dans une tomate, par exemple. Avec la biologie synthétique, on fabrique avec un synthétiseur d'ADN l'ADN à partir de rien. C'est un petit peu une imprimante à jet d'encre. Vous voulez un brin d'ADN qui a les lettres GTT, AGC, etc. Enfin, on va le demander et il va y avoir littéralement une impression de ce brin d'ADN. Vous avez une petite centaine d'entreprises dans le monde qui vont vous envoyer un brin d'ADN synthétique sur demande. Vous pouvez commander ce que vous voulez. Vous allez recevoir votre brin d'ADN par la poste et ensuite vous pouvez l'injecter dans un organisme vivant. Et la biologie synthétique, si vous voulez, c'est un petit peu, et c'est comme ça que perçoit ceux qui la font, c'est un petit peu une sorte de programmation informatique. C'est-à-dire que vous pouvez changer le comportement d'un organisme en programmant une bactérie, une levure, par exemple, et vous allez ensuite pouvoir donc modifier des organismes plus compliqués comme des plants, des végétaux, des insectes.
On a l'impression d'être dans un film de science-fiction.
Effectivement, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, sauf que ce n'est pas de la fiction, ce sont des faits scientifiques. Et on a eu des signes avant-coureurs en 2003, par exemple. Les spécialistes de la biologie synthétique à New York se sont rendus compte qu'ils pouvaient ordonner toutes les parties de manière synthétique pour créer le virus de la polio. Quelques années plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient élaborer un virus, en l'occurrence, c'était la fièvre, la grippe espagnole de 1918, qu'ils ont réussi à reconstituer alors qu'elle était éteinte. Et donc, ils se sont rendus compte que de là, ils pouvaient créer des morceaux de bactéries assez importants, puis des bactéries complètes. Il y a un an, Craig Venter, par exemple, pour ne pas le nommer, qui est un grand spécialiste de la biologie synthétique, a annoncé qu'il avait pu créer toute la séquence ADN d'une bactérie et qu'elle était vivante. Premier organisme jamais créé à partir d'un ordinateur. Mais ce qu'ils font, ces spécialistes de la biologie synthétique, c'est qu'ils créent, je le disais, des programmes qui vont ensuite injecter dans des petits microbes, organismes unicellulaires ou de petites algues, de sorte que ces organismes deviennent des véritables usines.
Admettons que effectivement on puisse faire ça. Ça doit coûter extraordinairement cher.
Well, quite the contrary.
Eh bien non, détrompez-vous, ça ne coûte pas très cher parce que ce que l'on fait, on prend quelque chose qui est vivant, qui se reproduit tout seul. Et l'ADN synthétique est d'ailleurs coûte de moins en moins cher. Je peux tout à fait commander un brin d'ADN. Ça va me coûter à peu près un $0.50 par lettre. On a 4 lettres qui constituent le code et selon le nombre de lettres. Bon, enfin bref, en tout cas, pour quelques milliers de dollars, je peux tout à fait créer un brin d'ADN extrêmement complexe que je vais ensuite injecter dans une levure qui va se reproduire. Et pour les biomasters, les gens qui développent tout cela, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire des usines, par exemple, de produits chimiques qui sont complexes, qui coûtent très cher, puisque la levure devient l'usine chimique qui va reproduire tout cela gratuitement, pour autant que vous l'alimentez en sucre. Et c'est là que le sucre est très important. Il faut avoir des quantités énormes de sucre que l'on peut fournir à ces organismes, les levures en l'occurrence, qui vont ainsi se reproduire.
Mais là encore, Jim Thomas, on pourrait se dire qu'il y a une partie presque désirable dans ce que vous décrivez, puisqu'on peut imaginer une planète qui serait débarrassée de ses usines polluantes, qui serait débarrassée de ses énormes besoins en matières premières, biomasse, etc., si on arrivait à fabriquer tout ça à partir de quelques petites perles d'ADN. Ça serait une économie extraordinaire pour tout le monde.
Well, you're switching one set of dangerous.
En fait, on se débarrasse d'un type de pollution industrielle pour se retrouver confronté à un autre type de pollution dangereuse. On l'a vu avec les OGM, par exemple. Le fait de fabriquer le vivant à ce niveau, cela crée des dangers de toutes sortes. Et avec ce type de création du vivant, on sait qu'il y a des effets qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, les séquences d'ADN qu'on utilise sont prélevées d'un autre organisme vivant qui existe. Et les scientifiques nous disent qu'ils peuvent maîtriser d'une manière ou d'une autre les dangers. Alors qu'avec la biologie synthétique, on crée des séquences d'ADN complètement nouvelles, on les assemble d'une manière que la nature n'aurait jamais choisie, par exemple. Et d'ailleurs, les spécialistes eux-mêmes de la biologie synthétique le reconnaissent tout à fait ouvertement, ils ne savent pas quelles seront les conséquences. On est tout à fait d'accord pour dire que le fait de diffuser ces organismes dans l'environnement est dangereux et qu'on ne connaît absolument pas les risques.
Ça ne va pas se passer avant longtemps.
Vous
savez, il y a toujours moyen de contourner. Hein. On a des systèmes commerciaux, des systèmes industriels qui sont ici impliqués, qui ont déjà produit, qui ont déjà mis en place des espèces d'usines, de brasseries, où ils utilisent ces organismes synthétiques pour produire des combustibles, des textiles, etc. C'est déjà là. On ne le sait pas, c'est tout. Et puis, il y a des entreprises qui veulent maintenant utiliser ces organismes pour nettoyer par exemple des marées noires ou des sols contaminés. Et de plus en plus, les entreprises de biologie synthétique travaillent avec Exxon, avec Total, et ces entreprises veulent utiliser de plus en plus les algues dans des vastes pièces d'eau. Et qui dit utilisation d'algues dit qu'il va y avoir diffusion évidemment dans les cours d'eau, et ça c'est un gros risque et une grosse préoccupation écologique. Synthétique génétique, Genomics par exemple, qui travaille avec ExxonMobil, nous dit qu'ils veulent avoir des grandes pièces d'eau dans des zones désertiques où ils vont faire leurs expériences. Mais il y aura forcément un passage ensuite aux océans par les cours d'eau intérieurs. Et évidemment, les algues, elles peuvent tout à fait circuler facilement le long des cours d'eau. Et on sait d'ores et déjà que les souches normales d'algues peuvent d'ores et déjà poser un problème écologique quand elles traversent les cours d'eau. Donc évidemment, a fortiori, le risque écologique va être très important. Ce sont des menaces pour la santé. Il s'agit de nouveaux organismes, on ne connaît pas leur fonctionnement, on ne sait pas s'ils posent des problèmes pour la sécurité et la santé, ce qui est certain qu'ils auront un impact sur la nature dans un premier temps, mais également sur les animaux et sur les hommes à terme.
Diana Bronson, on a vraiment l'impression d'une série pour la télévision. On a parlé science-fiction avec Jim Thomas. Vous travaillez, vous, toujours dans le cadre du groupe ETC, sur un autre sujet qui paraît assez hallucinant et qui est d'une envergure tout à fait impressionnante, ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Vous pourriez nous expliquer ce que c'est ?
Ce sont une série de technologies qui sont en voie de développement, on pourrait dire. On parle d'une trentaine de techniques environ, qui visent à modifier sur une échelle massive le climat. Et de manière intentionnelle. On a déjà modifié le climat, bien sûr, d'une manière non intentionnelle, mais là, c'est des scientifiques qui planifient des interventions technologiques à une échelle tellement grande que ça va affecter le climat. Par exemple, on parle d'émettre les sulfates dans la stratosphère pour faire réfléchir le soleil. On parle de blanchissement des nuages, de fertilisation des océans, de mettre des chimiques dans les océans afin de faire pousser des algues qui vont absorber davantage de dioxyde de carbone que théoriquement après ils vont se mettre sur le plancher de la mer et rester là au temps infini. Donc, c'est toute une série d'interventions comme ça qui sont envisagées, qui sont en voie de développement, en fait.
Alors, d'après ce que vous décrivez, il s'agit de techniques qui sont là. Vous avez dit qu'elles allaient modifier le climat, mais on entend dans ce que vous dites qu'il s'agit de réparer le climat.
C'est le prétexte. Le grand prétexte, c'est que si on n'arrive pas dans les négociations multilatérales à atteindre un consensus ou à forcer des pays annexes 1, des pays riches à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, faut procéder autrement. Alors, un des grands dangers de ces technologies-là, c'est que ça peut être exécuté unilatéralement. Ça prendrait juste un État. Par exemple, si on parle d'émettre les sulfates dans la stratosphère, la technologie est relativement simple. Il s'agit de dépendre des chimiques, soit par des avions, soit par un grand tuyau qui irait jusqu'à la stratosphère. Avec des conséquences assez dramatiques.
Par exemple?
Par exemple, pour celui-là, tout ce qu'on a, c'est la théorie. Hein? Ça n'a pas été expérimenté encore, mais ça vise à imiter les volcans, par exemple. Les volcans émettent des grands volcans, comme le Pinatubo dans 1981. Ils émettent énormément de soufre dans la stratosphère et ça se répand autour du globe et ça baisse effectivement la température. Ça peut aussi causer la sécheresse. Ça peut modifier les pluies en Afrique de l'Est, en Asie du Sud, par exemple. Ça peut changer la couleur du ciel, en fait. Il serait moins bleu, c'est plus blanc. Une fois qu'on commence à utiliser ces technologies-là, on ne peut plus les arrêter. Parce qu'une fois que tu commences à baisser la température de la biosphère, si l'intervention est arrêtée, il va sauter dramatiquement et ça va être beaucoup pire qu'un réchauffement plutôt graduel. Évidemment, il y a des implications pour la paix. pour les guerres. Imaginez que s'il y a une sécheresse, par exemple, en Afrique, suite à une intervention, mettons, américaine, comme ça, que ça cause ou non la sécheresse. S'il y a sécheresse, il va y avoir des doutes que ça cause des sécheresses. Imaginez que ça peut être la Chine, ça peut être la Russie, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Angleterre, l'Allemagne. Hein,
C'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont à la portée de tout le monde.
Bientôt, ils le seront. Alors, nous, ce qu'on envisage, c'est d'empêcher, justement, que ça soit à la portée de tout le monde. Parce que, par exemple, dans cette technologie-là, qui est vraiment la technologie numéro un, c'est le favori des scientifiques, il y a énormément de publications là-dessus, et il commence à voir la recherche fondamentale qui est faite là-dessus, appuyée par les gouvernements. Et le gouvernement anglais et aux États-Unis. Il y a des projets qui sont subventionnés. Ils veulent maintenant passer à l'expérimentation. Et il y a beaucoup de scientifiques, par exemple Alan Roebuck à l'Université Rutgers aux États-Unis, qui a expliqué qu'on ne peut pas faire une intervention expérimentale comme ça. En fait, c'est le déploiement. Une fois que si on met juste un petit peu, on ne voit pas c'est quoi les effets sur le climat. On ne verrait pas un changement de température. Donc, il faut l'exécuter à très grande échelle. Et une fois qu'on l'exécute à très grande échelle, c'est effectivement le déploiement. Il n'y a pas de différence. Alors, c'est ça, c'est vraiment très, très dangereux. Selon plusieurs rapports scientifiques qui ont été faits dernièrement, on doit passer aux actes pour tester ces technologies-là. On peut pas aller plus loin juste en théorie, juste sur les ordinateurs.
Mais Diana Branson, vous avez commencé en disant que c'est un prétexte, le changement climatique. Mais quelle serait la vraie raison? Pourquoi se lancer dans des expérimentations aussi hasardeuses qui tiennent de la loterie, puisqu'on ne sait pas quelles seront les conséquences?
Ben, derrière tout ça, moi, je crois qu'il y a une philosophie qui n'est pas du tout nouvelle, qui fait une partie intégrante de la pensée occidentale, c'est que c'est le devoir de l'homme, avec un grand H, à dominer la nature. On a le pouvoir de la manipuler, une espèce d'hubris qui sous-tend sous ça. Et une fois, c'est vrai que la raison principale pourquoi il y a tant de recherches sur ces questions-là, c'est le changement climatique. C'est pas uniquement un prétexte. Il y a des scientifiques qui sont engagés là-dedans, qui sont très, très inquiètes par des changements climatiques et qui sont un peu désespérées. Mais nous ne croyons pas que ça s'arrêterait là. Une fois qu'on commence à manipuler les cycles d'eau, les cycles de carbone, les cycles de nitrogène, tous les systèmes planétaires et les imiter artificiellement, on rentre dans un autre domaine. Il y en a qui appellent ça l'anthropocène, hein, le nouvel ère humain où les hommes, et il s'agit surtout des hommes et non des femmes qui sont engagés dans ces recherches-là, quoi qu'il y en a quelques-unes, que c'est leur devoir même de dominer la nature, de soumettre la terre et d'en faire ce qu'on veut, de créer... Par exemple, les techniques de manipulation solaire, ils appellent ça « solar radiation management », la gestion de rayonnement solaire. Il faut le faire, hein? Penser qu'on va le gérer, le soleil, hein? Que c'est ça la solution au changement climatique. Au lieu d'avoir, par exemple, une politique agricole qui a du bon sens, au lieu de diminuer toutes les sources des émissions, qu'on va gérer le soleil. C'est vraiment assez farfelu comme pensée.
Vous attirez l'attention sur le fait que toutes ces technologies se développent à l'écart du public et à l'écart du regard des sociétés, ce qui empêche qu'il y ait la moindre décision collective prise sur l'opportunité ou non de développer telle ou telle technologie.
On peut dire que dans les pays industrialisés anglophones, hein, surtout anglophones, qui commencent à avoir une plus grande conscience parce que les médias en parlent, c'est discuté dans les congrès, il y a eu des audiences, par exemple les audiences des comités parlementaires en Angleterre et du congrès aux États-Unis. Donc ça, cette partie-là est dans le domaine public, ça se discute. Ou ça ne se discute pas, dans les pays non anglophones et surtout dans les pays en voie de développement. Dans les pays pauvres, Ils ne savent même pas que ces technologies-là sont envisagées. Ils commencent à peine à prendre conscience qu'il y a des investissements publics et des réelles intentions de modifier le climat de cette manière-là. Et évidemment, comme il s'agit du climat, comme toute décision va affecter tout le monde sur la planète, nous, on dit qu'il doit y avoir une décision internationale. On ne peut pas laisser ça aux soins de quelques pays. Mais quand on parle de gouvernance dans ces cercles-là, par exemple, Royal Society ou dans plusieurs organisations scientifiques, on parle de bottom-up governance, où quelques pays qui ont les capacités scientifiques et technologiques vont prendre des décisions, parce que c'est nous qui avons les connaissances suffisantes. Mais peut-être pas, justement, ni la sagesse ni la légitimité de prendre de telles décisions pour toute la planète. Hein? Et surtout pour les pays qui en souffrent déjà des changements climatiques, dont l'agriculture souffre déjà, dont la vie des gens est déjà menacée par des changements climatiques. Nous, on ne peut pas croire que ces gens-là, leur véritable objectif, c'est de sauver la planète. Hein? On n'a pas réussi à nourrir la planète encore. Hein? On a encore une milliarde de personnes qui ont faim dans ce monde. Donc, de penser que c'est quelques pays éclairés qui vont sauver la planète, on ne le croit pas du tout.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, Diana Branson?
On a déjà eu à la Convention sur la biodiversité un moratoire un peu temporaire, un peu faible, mais un moratoire sur l'exécution de la géo-ingénierie. On a besoin de quelque chose de plus solide, de plus global et de plus contraignant pour les États. Alors, ce qu'on envisage lors de la grande conférence mondiale sur l'environnement, sur le développement durable l'année prochaine à Rio, au mois de juin, on vise une résolution intergouvernementale qui va le bannir et qui va le rendre illégal internationalement de tester ces technologies-là sans un consensus international.
On a donc entendu ce matin Tony Clark de l'Institut Polaris et Jim Thomas et Diane Branson de ETC Group. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur les sites respectifs de ces organisations. Et si vous ne les trouvez pas, vous pouvez évidemment tout retrouver sur notre site franceculture.fr. Vous y téléchargerez cette émission pendant une semaine et vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72 et notre adresse, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation de documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, traduction Hélène Joguet-Lecointre, mixage Valérie Lavalard, réalisation Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous.